l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Salis du Salat, 94.1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, Présence Midi en direct, et bonjour à vous Androïs Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Je vois que vous faites des économies d'énergie, vous n'avez pas allumé la lumière du studio, voilà, vous êtes à le droit, vous êtes quelque part par là quoi.
Mais je vois la lumière rouge qui me dit que nous sommes bien à l'antenne.
Voilà, je vous confirme, on est bien en direct pour ce Présence Midi, et dans un instant on va parler d'un sujet qui concerne le futur hôpital commun dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, alors il s'agit tout simplement du sujet de l'accès aux soins, mais effectivement plus précisément de ce projet d'hôpital commun ou hôpital unique dans les Hautes-Pyrénées qui devrait voir le jour entre Tarbes et Lourdes. On ne sait pas trop quand, en tous les cas ça fait 20 ans qu'on en parle, et aujourd'hui nous allons en parler avec José Navarro. Il est membre de l'association départementale de sauvegarde de la santé de l'hôpital dans les Hautes-Pyrénées. C'est une association qui s'élève contre ce projet d'hôpital commun. Il nous expliquera pourquoi, il nous expliquera aussi comment cette question-là s'invite dans le débat des élections municipales.
Voilà, cette interview fait suite à une réunion qui a lieu hier soir, vous étiez à Tarbes.
Oui, c'était à la Bourse du Travail à Tarbes, où les candidats à la mairie de Tarbes étaient invités à dire leur position par rapport à ce projet d'hôpital commun. 7 candidats ont pu ainsi donner leur avis, puis ensuite il y a eu un débat à la Bourse du Travail, c'était rempli parce que c'est un sujet, évidemment, l'accès aux soins qui intéresse tout le monde.
Et on en parle dans un instant donc sur Radio Présence. On parlera également de l'actualité, l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Pour cela, on sera en duplex avec Violaine Ricourt-Dumas qui est à Bayonne, et puis avec Anne Lasserre. Eh bien, on a sélectionné un ouvrage. Elle a sélectionné un ouvrage signé Roselyne Gusty qui s'intitule Instant minuscule en Haute-Bigorre. C'est paru aux éditions J-Paet. Elle a sélectionné 3 extraits donc de ce livre. Et Roselyne Gusty, elle est passionnée par l'art, le paysage et par la ville de Bagnères-de-Bigorre, que vous appréciez également, je crois.
Oui, moi aussi, je suis passionnée par Bagnères-de-Bigorre.
Voilà. Bien, tout de suite, eh bien, on retrouve pour le moment Lou Deneville, qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. On la retrouve pour les titres à la une.
Aujourd'hui débute la campagne annuelle de recensement de la population française. En Occitanie, 600 000 logements et près de 950 communes sont concernés. Pas de panique, si votre logement est sur la liste, vous recevrez une notification de la mairie avec la date de venue de l'agent ainsi que ses coordonnées. À Saint-Céré, dans le Lot, l'hôpital Saint-Jacques a inauguré ses nouveaux équipements. Cet investissement de 2,4 millions d'euros est une bonne nouvelle pour ce centre hospitalier du Nord-Lotois, l'un des principaux employeurs du territoire avec 260 salariés et 22 médecins en poste. Dans le Gers, tous les avions de l'aérodrome de Condon sont cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Face à l'explosion des tarifs, la communauté des communes de la Ténarèse n'a pas pu renouveler l'assurance responsabilité civile qui les incombe en tant que propriétaire des installations. Du nouveau pour le projet de la déviation d'AD en 2x2 voies sur la route nationale 21 entre Tarbes et Lourdes. Le préfet des Hautes-Pyrénées Jean Salomon a annoncé la validation du plan de financement et rappelle qu'une enquête publique est en cours. Les chances de livraison et d'ouverture de la route a été fixée à 2030. Direction l'Aveyron maintenant, le musée du Vieux Najac poursuit sa nouvelle phase de développement avec la création de 2 nouvelles salles. Véritable trésor de l'histoire locale, le musée entame sa prochaine étape de travaux pour une rouverture dans le courant de l'année 2026. Et la 10e édition du championnat du monde du cassoulet s'est tenue à Toulouse. Cette année, 5 chefs cuisiniers ont participé au concours. Les membres du jury officiel ont distingué le restaurant Bibent, tandis que le prix du public composé de 150 personnes s'est porté sur la conserverie Kiyo.
Voilà, merci à Lou Deneville qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. On la retrouvera à 12h30 pour développer ses titres dans le journal. À tout à l'heure.
Radio Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Avec vous, on va détailler l'agenda du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. La partie béarnaise nous amène pour débuter à Pau avec, dans le cadre des plus de la formation permanente, une conférence qui sera donnée prochainement.
C'est Marie-Lou Thierry qui est historienne qui va nous présenter Rerum Novarum, donc l'encyclique du pape Léon XIII. Donc on va parler de la doctrine sociale de l'Église puisque donc c'est le thème de cette encyclique. Ce sera demain soir à 18h30 et ça se passe à l'Immaculée Conception de Pau, 7 boulevard Édouard Herriot. C'est la formation permanente du Béarn qui organise cette conférence. Comme toute l'année, elle organise plusieurs conférences dans le cadre des plus de la formation permanente. N'hésitez pas donc à venir demain soir à 18h30, 7 boulevard Édouard Herriot à Pau, donc pour parler de Rerum Novarum sur la doctrine sociale de l'Église.
On poursuit avec la communauté des béatitudes de Nai qui propose une journée raquette et prière à la fois.
C'est samedi toute la journée, on a normalement de la bonne neige encore, même si ça commence peut-être un petit peu à fondre, mais c'est l'occasion d'en profiter avec une journée raquette et prière avec la communauté des béatitudes. Alors on va alterner des temps de prière, d'enseignement, de marche et de partage, et puis la journée se terminera à la communauté à Nai avec les vêpres de la résurrection, et puis on peut même rester dîner et danser avec la communauté. Donc n'hésitez pas à venir pour cette journée de plein air, raquette et prière. Il faut apporter son pique-nique et vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site des Béatitudes de Nai, nai.béatitudes.org.
On part à quelques dizaines de kilomètres de Pau, à Morlas, avec un concert, le concert du Nouvel An qui est proposé.
Ce sera un récital qui mettra à l'honneur le baryton Christian Paul et la pianiste Héloïse Urbain. Un récital qui aura lieu dans l'église Sainte-Foy de Morlas, cette belle église de Morlas, dimanche. Ce sera à 17h et les morceaux vont être expliqués donc pour ce concert qui s'inscrit dans une initiative qui s'intitule « Oser l'opéra ». Donc n'hésitez pas, c'est un concert du Nouvel An assez exceptionnel avec Christian Paul qui est béarnais baryton et Héloïse Urbain au piano à Morlas dimanche à 17h donc dans l'église Sainte-Foy de Morlas. À noter que c'est gratuit pour les moins de 14 ans.
On poursuit avec l'association Alliance Vita qui propose une formation de 3 séances.
C'est une formation proposée dans toute la France et même au-delà, puisqu'elle se fait en partie en visioconférence, mais dans beaucoup de villes de France qui proposent cette formation sur 3 lundis sur la bioéthique. Alliance Vita, qui est une association donc qui propose des formations de bioéthique pour défendre la vie du début à la fin. Et cette année, on va parler du corps, le corps dans tous ses états. Donc soirée à la fois d'enseignement, de témoignage. Il y aura donc un enseignement en visioconférence avec des tables rondes et puis après des témoignages plus locaux. Donc pour notre diocèse, il y aura 3 points pour suivre cette université de la vie. Et côté Béarn, ce sera à Billères, juste à côté de Pau, au 9 avenue Béziou. Donc ça commence lundi prochain et ensuite ce sera les deux lundis suivants. C'est à 20h30, il faut arriver bien à l'heure. Et c'est un cycle pour lequel il faut s'inscrire à l'avance sur internet. Vous allez sur le site d'Alliance Vita, donc www.alliancevita.org. Vous retrouvez la ville, vous choisissez la ville où vous voulez suivre cette université de la vie et vous pouvez vous inscrire donc pour lundi prochain, cette université de la vie sur le corps, donc à Billères, au 9 avenue Béziou.
Et enfin, on termine cet agenda avec la prière œcuménique qui est itinérante dans votre diocèse. Et la semaine prochaine, c'est à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Tout à fait, toute la semaine à partir du 18, c'est cette semaine donc de prière pour toutes les confessions chrétiennes. Et à cette occasion, le groupe œcuménique de Pau nous propose sa prière œcuménique itinérante mensuelle avec donc l'événement spécial pour la semaine de l'unité des chrétiens. Ce sera à l'église Saint-Paul au 262 boulevard de la Paix mardi prochain à partir de 19h. Donc prière et repas fraternel partagé avec le groupe œcuménique de Pau.
Voilà pour une partie de l'agenda béarnais du diocèse de Bayonne-Lescarrel-Oron. Diocèse64.org, c'est le site internet de votre diocèse. Un grand merci à Violaine Rigourd-Dumas. Voilà, je rappelle que vous étiez en duplex depuis Bayonne, donc pour évoquer cet agenda. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se dit à très vite sur Radio Présence.
Merci beaucoup, bonne semaine à vous.
Présence dans la vallée du Lot 92.5.
Et la suite de Présence Midi, dans un instant, eh bien, on recevra José Navarro, qui est membre de l'association départementale de sauvegarde de la santé et de l'hôpital dans le département des Hautes-Pyrénées, avec Anne-Rose Jankovic, qui vont évoquer le futur hôpital commun du département des Hautes-Pyrénées. C'est dans 3 minutes.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Dans un quart d'heure, retour de l'information régionale avec Lou Deneville. Ce sera à partir de 12h30. Pour le moment, la suite de Présence Midi, c'est avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9.
Ce mercredi 14 janvier avait lieu à la Bourse du Travail à Tarbes une soirée débat au sujet de l'hôpital commun ou l'hôpital unique dans les Hautes-Pyrénées. C'est à l'invitation de l'Association départementale de sauvegarde de la santé et de l'hôpital dans les Hautes-Pyrénées que les candidats à la mairie de Tarbes ont eu chacun 10 minutes pour présenter leur position et leur avis sur ce projet d'hôpital en débat depuis 20 ans. José Navarro est membre de cette association à l'initiative de cette soirée débat. Pour lui, c'est très clair, ce projet d'hôpital n'a pas fait l'objet de suffisamment de débats. Il nous explique les enjeux visés par l'association. Il nous dit aussi pourquoi et comment la Commission nationale du débat public a mis le nez dans ce dossier. Et il maintient que pour son association, ce projet d'hôpital commun à l'âne, entre Tarbes et Lourdes, n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. José Navarro.
Nous sommes sur un sujet qui, je dirais, préoccupe, d'après les dernières enquêtes, 70% des personnes interrogées considèrent que, notamment pour les élections municipales, le sujet principal est celui de la santé et de la santé publique. Et il s'avère que sur ce territoire, comme dans beaucoup de territoires où la santé publique est mise à mal avec beaucoup de difficultés, il y a un projet qui est ressorti du chapeau parce qu'il était déjà ancien, de faire un hôpital que nous on dit hôpital unique, d'autres disent hôpital commun, qui aboutissait à la suppression de l'hôpital qui est sur Tarbes, ainsi qu'à la suppression de l'hôpital qui est sur Lourdes, avec la construction d'un hôpital entre les deux villes, à l'âne. Et par rapport à ça, nous étions effectivement, nous, en désaccord, parce qu'on considère qu'il y avait des projets alternatifs possibles, et surtout, on a monté l'association parce qu'on considérait que le débat était un débat confisqué, et que les populations ne s'appropriaient pas, parce qu'on leur en donnait pas les moyens, ce débat sur un sujet qui les concerne, qui est celui de leur santé et de leur prise en charge, et que c'est la construction d'un hôpital, ça entraîne, je dirais, et ça engage pour plus de 50 ans, donc ça méritait que ce débat public soit engagé et soit facilité.
Ça fait 20 ans qu'on en parle, ou pas loin de 20 ans qu'on en parle de ce projet d'hôpital commun. Et là, vous parlez de projets alternatifs possibles. Alors, depuis 20 ans, vous avez eu l'occasion de les présenter, ces projets alternatifs. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces projets alternatifs possibles? Pour vous, c'est quoi ces projets alternatifs possibles?
Alors, lorsque l'ARS et l'hôpital de Tarbes ont présenté ce projet d'hôpital à l'âne, un cabinet a été mandaté qui a examiné plusieurs solutions. L'une des solutions étant rénovation des hôpitaux de Tarbes et de Lourdes, et donc il y avait un comparatif de coûts. Ce qu'il apparaissait lors de cette présentation, c'est que le coût d'une rénovation et donc du maintien des deux structures allait grosso modo coûter à peu près 10 millions d'euros de plus qu'un projet d'hôpital nouveau, unique, qui aboutissait quand même, je le redis, à la suppression de l'hôpital de Tarbes et de l'hôpital de Lourdes. Donc il y avait un lambda de 10 millions d'euros et n'a été présenté finalement par le centre hospitalier que le projet de fermeture des deux hôpitaux de Tarbes et de Lourdes et de la construction à l'âne. S'en est suivi des prises de position dans les différents exécutifs des collectivités territoriales, que ce soit le conseil départemental, la municipalité de Tarbes, la municipalité de Lourdes et la communauté d'agglomération, sur le principe de est-ce que c'est un projet qui répond aux besoins de la population, et les élus, dans leur majorité, je le dis tout à fait, ont approuvé ce projet, bien que n'étant pas des acteurs de la politique de santé, puisque les collectivités territoriales ne sont pas ce sont pas les collectivités territoriales qui définissent la politique de santé sur un territoire, mais bien l'État, l'ARS, via, je dirais, les différents modes de financement.
Cela étant, les élus locaux sont bien placés, eux, pour savoir quels sont les besoins des habitants du territoire.
Bien sûr, mais encore faut-il pour cela, quand on fait un vote, d'ailleurs ils l'ont reconnu eux-mêmes, que lorsqu'on les a consultés, la plupart n'avaient pas en main toutes les données du dossier de l'hôpital unique. Avant de prendre une décision qui engage les populations pour des dizaines d'années sur l'offre de soins et leur prise en charge, encore faut-il avoir tous les éléments entre les mains, les éléments en matière d'offre de soins, les éléments financiers, et y compris les éléments sur les questions environnementales qui deviennent de plus en plus importantes pour notre société. La Commission nationale du débat public Nous, on a beaucoup œuvré là-dessus. Comme je vous ai dit, on a mené un travail qui est un travail de fourmi auprès des citoyens. On allait sur les marchés, on parlait de... Et il y avait une pétition pour dire on veut un vrai débat public et on refuse d'être mis devant le fait accompli de l'hôpital unique. On a réuni près de 28 000 signatures, ce qui n'est pas rien dans un département de 225 000 habitants quand même. Mmh. 28 000 signatures. Au bout du bout, nous avons eu ce qu'on appelle la Commission nationale du débat public qui a été saisie à la demande du conseil départemental et de la direction de l'hôpital. Nous, on avait beaucoup œuvré pour que ce soit fait. Ça s'est fait. Il y a eu un débat qui s'est ouvert. Les garants de la Commission nationale du débat public nous ont dit très clairement, à nous, vous savez, M. Navarro, l'association, ce débat, il aurait dû intervenir 6 ans avant. Vous voyez que lorsque la Commission nationale du débat public, le débat public aurait dû intervenir 6 ans avant, ils disent on arrive un peu tard. C'est-à-dire on arrive un peu devant le fait accompli. Il n'en reste pas moins que nous, on a fait des remarques, on a participé à toutes les réunions qui ont pu avoir lieu à Tarbes, à Lourdes, à Lannemezan, à Trie-sur-Baïse et ailleurs. Et ce qu'il en est sorti, c'est que ce débat devait continuer.
Pour les auditeurs là, qui nous écoutent aujourd'hui, ce qu'ils entendent, c'est que depuis 20 ans, il y a ce projet, ces discussions, cette préparation pour l'hôpital commun. Hôpital commun au sujet duquel, d'ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées a rappelé en début de semaine que c'est un projet qui allait aboutir et qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. En tous les cas, pour les auditeurs qui nous écoutent, ça semble quand même un petit peu étrange qu'aujourd'hui vous nous disiez, en fait, ce travail-là, ce sujet-là, ce chantier-là qui est en discussion depuis 20 ans, il a été mal étudié, mal préparé, mal ficelé. On a du mal à y croire.
C'est-à-dire que quand je vous ai dit que c'est la Commission nationale du débat public, c'est la Commission nationale du débat public qui a fait un certain nombre de conclusions. Et quand vous dites que depuis 20 ans on en discute, non, il y a 20 ans on en a parlé, il a été abandonné, il est ressorti, et il est ressorti dans les conditions que je suis en train de vous dire. Ensuite, vous me parlez du préfet, qui lui non plus n'est pas l'acteur de la politique de santé sur un territoire. Mais c'est assez intéressant de voir ce que dit le préfet, parce que il fait des interviews, il intervient de manière assez régulière lorsque l'association de défense prend des initiatives. Vous savez qu'hier, il y a eu une initiative où on a invité l'ensemble des têtes de liste au municipal de Tarbes sur ce projet. Bon, le préfet est intervenu et a fait une interview où il a dit ce projet est à 350 millions d'euros et il se fera, comme vous venez de le dire, voilà, la force de la conviction, il se fera et c'est pas autrement. Ce que je peux vous dire, et ce qui va donner sans doute une idée aux citoyens d'où on en est exactement, c'est que lorsque la Commission nationale du débat public a eu entre les mains le dossier établi par l'hôpital, par la direction de l'hôpital, on était sur un projet à 300 millions d'euros. Dans ce projet à 300 millions d'euros, il y avait un financement par emprunt de l'ordre de 250 millions d'euros. Cette question du financement a évolué. Le préfet lui-même, il y a pratiquement 9 mois, a dit « le projet n'est plus à 350 millions d'euros, mais à 405 ». C'est lui qui l'a dit, hein, 405 millions d'euros. Et hier, il dit qu'on revient à 350 millions d'euros en donnant des taux de financement par l'État différents de ce qu'il avait donné 8 mois avant. Je dis que là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas sérieux d'avancer en l'espace de 8 mois des chiffres qui évoluent à hauteur de 60 millions d'euros de différence. Ce qu'on n'a pas dit dans le débat public, c'est que la somme des deux hôpitaux, en arithmétique, quand on fait un plus un, on arrive à deux. Là, quand on fait la somme des lits d'hospitalisation de Lourdes et des lits d'hospitalisation de Tarbes, dans le nouvel hôpital, on arrivera à moins 55. Voilà, ça c'est intéressant et je trouve que c'est très important que les populations le sachent. Et je parle d'une catégorie de lits bien particulière qui sont les lits d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous la joue comme on nous la joue dans beaucoup de projets, où on nous parle des lits d'hospitalisation et qu'on fait l'amalgame avec l'ambulatoire. Non, il va y avoir une montée de l'ambulatoire, mais en termes de lits d'hospitalisation, c'est-à-dire lorsqu'on est hospitalisé, on est à moins 50. Et vous savez que ce chiffre-là est particulièrement important parce que, par exemple, lorsqu'on arrive aux urgences aujourd'hui, ce qui fait qu'on se retrouve des fois dans des brancards à rester pendant plusieurs heures, voire plus d'un jour. C'est parce qu'on n'a pas de lit de suite d'hospitalisation. Donc ce sujet est très important. Le sujet des urgences, il l'est aussi. On est dans un département, sachez-le, où les urgences de Bagnères ne fonctionnent quasiment plus. Mmh. Voilà. Elles sont fermées tous les soirs. Il y a 2 jours sur 5 en semaine où elles sont fermées. Donc, de fait, il n'y a plus d'urgence à Bagnères digne de ce nom. Les urgences de Lourdes vont être fermées. Et les urgences de Tarbes vont être fermées puisqu'on va créer Alan. Donc, on va créer un service d'urgence quasiment départemental, même s'il reste les urgences de Lannemezan, où on risque d'avoir effectivement un engorgement. Et la direction de l'hôpital l'a bien reconnu, puisqu'elle dit elle-même qu'aujourd'hui, elle va redimensionner cet aspect-là.
Qu'est-ce qui vous gêne vraiment dans ce projet d'hôpital commun ? Est-ce que c'est un problème financier ? Est-ce que c'est un problème environnemental ? Est-ce que c'est vraiment le problème d'accès aux soins pour les gens des vallées, de Gavarnie, de Cotteret, d'aller à Lannes ou d'aller à Tarbes ? De toute façon, ça reste loin. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez vraiment dans le projet existant ? Qu'est-ce qui pêche pour vous aujourd'hui, pour votre association ? Et qu'est-ce que vous proposez en fait ?
Je vais vous dire les trois, mon capitaine, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Vous avez bien lu, les préoccupations de l'association. D'abord, je ne pense pas que ce soit kiff-kiff de mettre quelque chose à 15 ou 20 minutes, parce que pour qui connaît l'agglomération de Tarbes et de Lourdes, on sait qu'en termes de pour s'y rendre, parce qu'un hôpital, je le dis aussi, hein, ce ne sont pas que les hospitalisations en urgence et les interventions, ce sont également les consultations. Il y a beaucoup de consultations à l'hôpital. Et donc, l'éloigner, c'est déjà une première chose. Mais au-delà de ça, oui, il y a des interrogations financières. Vous voyez ce que je viens de vous dire quand même. On passe de 300 millions d'euros à 405.
60 millions d'euros, c'est beaucoup. En même temps, quand il s'agit de pouvoir accéder aux soins et à un lieu de soins qui soit qualitatif, avec des plateformes techniques qui soient vraiment efficaces, un lieu aussi les soignants peuvent bien faire leur métier, on se dit que ça vaut le coup, une différence de 60 millions d'euros.
Oui, bien sûr, mais ça vaut le coup. Mais est-ce que vous avez vu le mécanisme de balancier ? On est parti d'un projet qu'on a présenté aux gens en disant que c'était 350, on passe à 405, et puis à la veille de notre réunion, on nous dit c'est à nouveau 350. Je dis qu'il y a beaucoup d'interrogations sur comment on va financer. Donc je dis que les habitants de ce département ont droit à une information fiable. Voilà, nous ce qu'on a voulu, c'est que ce débat soit un débat public, qu'il soit dans le débat des municipales, même si les élus, même si les têtes de liste, même si les candidats ne sont pas les acteurs et les décideurs, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont le représentant de leur population.
Ils ne sont pas les seuls concernés. Les élus ou les futurs élus de Tarbes ne sont pas les seuls concernés.
Non, c'est les populations, les principaux concernés. Vous avez raison. C'est les populations de tout ce département qui sont concernées. À Montbourguet, ça les intéresse de savoir ce qui va se faire. Est-ce qu'il va être à Tarbes, l'hôpital, ou est-ce qu'il va être à Lannes ? Ben, je pense que ça les intéresse. Mais tous les éléments d'interrogation que je viens de vous livrer, avouez que lorsqu'on nous dit ça fait 20 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on en parle et aujourd'hui on en est encore à ce niveau d'interrogation, je me dis qu'on n'en a pas assez parlé, en tout cas pas assez sérieusement.
José Navarro, pour conclure, pour qu'on comprenne bien la posture de votre association, pour ou contre ce nouvel hôpital, est-ce que vous voulez qu'il se construise à Lannes comme c'est le projet, ou est-ce que vous voulez plutôt que les hôpitaux et de Lourdes et de Tarbes soient rénovés et le projet de l'hôpital à Lannes abandonné, ou est-ce que vous êtes d'accord, mais dans des conditions un peu revues ?
Oui, nous souhaitons la rénovation des hôpitaux existants à Tarbes et à Lourdes. Oui, nous voulons qu'il y ait le maintien d'un service d'urgence à Lourdes qui est, dans le projet de Lannes, voué à la disparition. Oui, nous voulons effectivement que les hôpitaux de proximité y aient des investissements. Et ce que je regrette, et je vais vous le dire aussi, et je l'ai dit hier, c'est que la politique de santé ne dépend pas bien évidemment des collectivités locales, mais qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer le prix d'une politique de santé que nous vivons depuis 30 ans, qui est celle du rationnement, qui est celle de la réduction, qui est celle de la restriction. Et ce projet, pour nous, est un projet du passé. Quand on enlève 55 lits d'hospitalisation, on ne peut pas être d'accord. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a eu des prises de parole publiques qui ont dit on ne veut pas, on a vécu le Covid, on a vu comment ça s'est passé, plus jamais ça. Moi, je dis oui, plus jamais ça. Et je vais vous donner un chiffre. Au moment du Covid, la France a été pénalisée parce qu'elle avait 5200 lits de réanimation. On nous a dit plus jamais ça, on va en avoir plus. En Allemagne, ils en ont 25 000. Est-ce que vous connaissez les chiffres l'an dernier de combien de lits de réanimation on a dans notre pays ? 5200. Ça n'a pas bougé. Par contre, entre-temps, sur les 7 dernières années, nous avons perdu 30 000 lits d'hospitalisation dans le pays. Et si on prend les 25 dernières années, on en a perdu 130 000. À partir de là, lorsqu'on est sur ces logiques-là, on vient me présenter un projet tout neuf. Ben évidemment que les bâtiments neufs, ils sont neufs. Mais encore faut-il les remplir de personnel, les remplir de matériel et faire en sorte qu'effectivement la proximité soit assurée.
Et pour conclure, on peut dire quand même que cette réunion publique qui a eu lieu hier soir, la Bourse du Travail à Tarbes, a bien sûr fait venir les candidats à la mairie de Tarbes, mais également beaucoup de personnes. Hein, les Tarbais étaient présents hier et le débat a été assez vif quand même.
Vif, il a été riche. Pas vif, bon, après, je veux dire, la vivacité d'un débat, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a des opinions qui se, voilà, la contradiction est intéressante et elle permet ensuite de nourrir le débat et d'arriver à des solutions. Oui, vous avez raison de le dire, je ne l'ai pas assez dit. Nous avons pris cette initiative et nous sommes, je dirais, particulièrement content de l'avoir fait parce que nous avons eu 6 candidats sur 7 et ensuite effectivement l'amphi de la Bourse du Travail était plein, ce qui en général est pas si facile à faire, et il y a eu un échange non seulement entre les candidats entre eux. Ils ont eu 10 minutes pour présenter ce qu'ils en pensaient. Un certain nombre ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'hôpital unique. Vous avez pu le constater vous-même. Il y a un candidat qui a dit oui, mais voilà, tout en mettant, tout comme nous, beaucoup d'interrogations. Il y a des interrogations financières, il y a des interrogations bien entendu sanitaires, et ça mérite aujourd'hui que ce débat continue à se faire, et continue à se faire de manière, je dirais, la plus argumentée possible.
Merci beaucoup José Navarro.
Merci
pour ces explications.
À bientôt, au revoir.
Voilà, et José Navarro est membre de l'association départementale de sauvegarde de la santé et de l'hôpital dans les Hautes-Pyrénées. José Navarro était interrogé par Andros Jankovic. Bon appétit, il est 12h31, c'est le moment de faire un point sur l'actualité régionale et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir Lou Deneville qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et des communications de Blagnac.
Aujourd'hui débute la campagne annuelle de recensement de la population française. En Occitanie, 600 000 logements et près de 950 communes sont concernés. Cette opération conjointe entre l'INSEE et les municipalités a pour objectif de mettre à jour les données démographiques et sociales au niveau local. Pas de panique si votre logement est sur la liste. Vous recevrez une notification de la mairie avant la date de venue de l'agent ainsi que ses coordonnées. Cette année encore, vous pourrez choisir entre remplir le formulaire en ligne ou directement à la mairie. À s'insérer dans le Lot, l'hôpital Saint-Jacques a inauguré ses nouveaux équipements. L'établissement de santé s'est récemment doté d'un centre périnatal entièrement rénové, d'une imagerie médicale réorganisée et d'un nouvel accueil pour les consultations. Cet investissement de 2,4 millions d'euros est une bonne nouvelle pour ce centre hospitalier du Nord-Lotois, l'un des principaux employeurs du territoire avec 260 salariés et 22 médecins en poste. Dans le Gers, tous les avions de l'aérodrome de Condom sont cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Face à l'explosion des tarifs, la communauté des communes de la Ténarèze n'a pas pu renouveler l'assurance responsabilité civile qui les incombe en tant que propriétaire des installations. Pour l'heure, la collectivité poursuit ses recherches afin de trouver un assureur pour l'infrastructure. Les vols et les cours dispensés restent suspendus en attendant. Du nouveau pour le projet de la déviation d'Adé en 2x2 voies sur la route nationale 21 entre Tarbes et Lourdes. Le préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon, a annoncé la validation du plan de financement et rappelle qu'une enquête publique est en cours. L'échéance de livraison et d'ouverture de la route a été fixée à 2030. Direction l'Aveyron maintenant. Le musée de Vieux-Najac poursuit son développement avec la création de 2 nouvelles salles. Véritable trésor de l'histoire locale, le musée entame sa prochaine étape de travaux. À terme, ces rénovations permettront de valoriser davantage l'histoire du village médiéval de Najac. Les visiteurs pourront découvrir la terrasse avec vue panoramique sur les environs, ainsi que la salle de soubassement donnant accès à des objets et documents d'époque dans le courant de l'année 2026. Et la 10e édition du championnat du monde de cassoulet s'est tenue à Toulouse. Cette année, 5 chefs cuisiniers ont fait défiler leurs casseroles sous les yeux attentifs d'un jury exigeant, composé du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, du chef étoilé Michel Saran, des chevaliers du Fiel, du directeur général de la Dépêche du Midi, et de Damien Épicurien, un créateur de contenu toulousain. Le jury a distingué le restaurant Bibette, tandis que le prix du public, composé de 150 personnes, s'est porté sur la conserverie Kio.
Voilà, merci à Lou Deneville, qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Retour de l'info dans moins d'une demi-heure à 13h avec l'actualité nationale et internationale. Instant minuscule en Haute-Bigorre, c'est l'ouvrage qu'a sélectionné cette semaine Anne Lasser dans le regard des écrivains sur les Pyrénées. L'auteur s'appelle Roselyne Gusty et Anne Lasser a sélectionné 3 textes. Elle va nous lire 3 extraits de ce livre. livre. Rosine Gusti, hein, qui est passionnée par l'art, les paysages et par la ville de Bagnères-de-Bigorre. C'est à suivre sur Présence juste après Céline Dion à la mi-journée.
J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat. Et j'ai suivi les charmes lentement, en douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil, dans tes nuits, un jour nouveau se lève. À nul autre pareil, et tu sais depuis,
tout l'homme des hommes.
Jeudi et bon appétit à l'écoute de Présence Midi. On retrouve maintenant le duo du jeudi, c'est Anne Lasserre et Philippe Subercaz, le regard des écrivains sur les Pyrénées.
Radio Présence à Toulouse 97.9.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Bon voilà, ça y est, les fêtes sont passées, on est parti sur cette grande ligne droite qui va nous amener jusqu'à l'été prochain.
Oui.
Toujours un peu compliqué après les fêtes, Anne.
Et oui, de reprendre le rythme et en même temps, on est quand même content de commencer une nouvelle année.
Oui, on essaye de celle qui s'est passée, de gommer tout ce qu'elle avait de
voilà.
Mauvais, et puis de penser que celle qui nous arrive, elle va nous apporter de belles choses. Et on l'espère et on le souhaite pour, bien sûr, pour tout le monde.
Et on est plein de promesses envers soi-même.
Oui, théoriquement, on a pris des bonnes résolutions qui verront ce qu'elles valent au bout des jours qui viennent. Vous avez rencontré Roselyne Giusti. Ou Giusti, qui était sur les stands des éditions Gipaeta.
Oui, elle dédicaçait un ouvrage qui est composé de textes brefs, de petits riens, qui deviennent une histoire parce qu'elle prête attention à ces petits riens.
Passionnée par l'art, par les paysages, Roselyne Giusti a été également séduite par Bagnères-de-Bigorre, où elle a un temps posé ses valises.
Et l'ouvrage qu'elle vient de publier s'intitule justement « Instant minuscule en Haute-Bigorre ».
Et il est composé de plusieurs chapitres, par exemple « Par les monts, les bois et les champs » ou alors « Bestiaire » ou encore « La vie comme elle va ».
Et j'ai retenu, Philippe, trois textes extraits du chapitre « Bestiaire ».
Je ferme les yeux et je vous écoute, Anne. À tout de suite.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Roselyne Giusti a l'art de s'intéresser aux choses les plus simples, de poser un regard sensible sur l'environnement quotidien. De petits riens deviennent des récits, de petites histoires. Ces récits ont souvent pour cadre Bagnères et ses environs, ainsi que la Haute-Bigorre. Le premier récit retenu a pour titre « Retour d'Estive ». Malade ou blessé, le petit veau couché en contrebas du chemin. Un filet d'eau coule à ses pieds. Quel attendrissant dormeur du Val. A-t-il glissé sur les blocs rocheux qui le surplombent? Il ne bouge pas. Dort-il? Est-il mort? Un enfant caresse le pelage de l'animal. Mais il est encore chaud. À cet endroit, le sentier menant au lac s'élargit sur une prairie. Des vaches rousses pèsent à leur aise, empiétant parfois sur le passage des randonneurs. L'heure est déjà avancée, bientôt le soleil sera trop haut. Allons. Difficile de laisser ainsi l'animal affaissé à l'écart du troupeau. D'autres marcheurs, partis très tôt ascensionnés, descendent vers la plaine. Il faudrait peut-être prévenir en bas. Ce n'est pas bien normal, cette immobilité. La montée, plutôt rude, fait oublier le veau laissé à son sort. Retour. La malheureuse bête est toujours là, dans ce creux de vallon. Cette fois, la mère est à ses côtés, désemparée. Autre vallée. Le relief est particulièrement accidenté à cet endroit. De gros blocs de pierre encombrent le sentier pentu. Un troupeau de vaches descend des estives sous la férule musclée de trois gardiennes qui les exhortent à filer droit. Mettez-vous à l'écart pour ne pas effrayer les bêtes. Néanmoins, une génisse s'entête à escalader un rocher. Ah, elle va glisser! Non, elle saute avec souplesse et rejoint ses comparses sans dommage. Fini la liberté! Une bétaillère les attend au parking. Rebelles, elles y entrent à coups de bâton répétés. Une des vaches est blessée à la patte. Elle ne peut pas gravir le plan incliné, donnant accès au camion. Comment hisser cet animal si lourd? Hommes et femmes bataillent un long moment. Le soir tombe. Les randonneurs se hâtent vers les voitures. Mais c'est un mouton qu'il porte sur ses épaules. Un sportif costaud a pris en charge la bête blessée. J'ai eu pitié, je ne pouvais pas la laisser, une de ses pattes est endolorie. Elle doit être bien lourde, oui, un peu, mais... Vision du bon pasteur qui, dans les images pieuses d'autrefois, porte ainsi sur ses épaules la brebis égarée. Ou plutôt... Scène de la Grèce antique, le Moscophore, statue célèbre conservée au musée de l'Acropole, montre en effet un jeune homme, la bête autour de son cou, destinée au sacrifice. Né le jour même, l'agnelé le plus chanceux. Un berger le transporte dans son sac à dos. Seule, la petite tête dépasse. Ils étaient là, à brouter dans le pré, à se signaler aux passants avec leur sonaille. En un clin d'œil, ils voient la partie, comme un seul homme, mœurs de mouton. Quelques flocons de laine bise restent accrochés au fil de fer de la clôture, menues traces de leur passage. Recueillir un brin de toison, comme on ramasse une fleur, talisman au vin. L'ombre est fraîche, autour de ce chalet inhabité. Les volets clos donnent du relief aux lambrequins qui ourlent le toit. Architecture venue du nord, paysage presque irréel tiré de conte. Une chevrette risque une avancée furtive. Pourquoi se refuser une incursion auprès des hommes quand tout est si calme aux alentours? L'appareil photographique a juste le temps de saisir l'apparition du cervidé entre deux branchages au-dessus du talus et de fixer son port de tête altier. Les Pyrénées ne se réduisent pas à leur sommet. Terres de transhumance, elles abritent chaque été de nombreux troupeaux. Comme nous le rappellent ces textes brefs, qui ressemblent à des instantanés. Les textes retenus sont extraits d'un livre écrit par Roselyne Justy, livre intitulé « Instant minuscule en haute Bigorre » et publié par les éditions Gipaète.
Alors Anne, la transhumance s'est un peu modernisée puisque Roselyne Justy fait allusion aux bétaillères qui viennent désormais chercher les vaches et les attendent sur un parking.
Oui, alors Joseph de Pesquidou, que nous avons déjà cité et qui évoque la transhumance au début du XXe siècle, serait bien étonné, Philippe, lui qui évoque la lente montée des troupeaux sur les alpages depuis le Gers.
Depuis le Gers, ça devait être quand même une sacrée expédition. Hein.
Oui.
Autre temps, autre mœurs, comme on dit. Mais il y a encore à peine quelques années, on ne s'approchait pas des troupeaux en 4x4. Hein.
Non, et les cabanes restaient sommaires, et le matériel nécessaire n'était pas non plus héliporté.
Ah oui, ben voilà, le modernisme est passé par là, et c'est peut-être bien. On le remet un peu au goût du jour, hein, c'est transhumance. Hein,
voilà, certains. Oui, il y a certaines fêtes.
Certaines fêtes, et puis on le fait encore pour certains à pied un peu.
À pied.
Au moins un petit bout, voilà. La semaine prochaine, Anne, saison oblige, nous partirons sur les pentes enneigées des Pyrénées avec les pionniers du ski qui partaient gravir l'Aneto avec des skis de fortune. Ils devaient gratter au couteau la neige collée sous leurs skis. Voilà, belle. C'était sûrement le début, hein, le début des.
Oui, on va être tout à fait au début, 1903, 1904, 1905.
Voilà. C'est là où on commençait à découvrir que ça pouvait être un magnifique stand de jeux et de plaisirs, de loisirs. Hein.
Voilà.
Les montagnes.
Les montagnes, effectivement.
Je pense que les premiers, quand même, ont dû un petit peu galérer. Hein.
Oui, et surtout, ça leur permettait de faire des ascensions hivernales.
Voilà. Merci beaucoup, Anne Lasserre. Et puis, à la semaine prochaine, on chaussera les skis.
Oui, Philippe, avec grand plaisir.
À la semaine prochaine.
Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day.
Présence à Cahors, 92.5.
On prend la direction du Béout aujourd'hui avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Bonjour Julie.
Bonjour à tous.
On rappelle que le Béout, ça se trouve à côté de Lourdes, sur les hauteurs. On va détailler un peu ce massif calcaire.
Exactement. Alors le Béout, en fait, avec son voisin, le Pic du Gers, va venir fermer le sud de la ville de Lourdes. Il se trouve du côté du sud-ouest de Lourdes. Et c'est un massif calcaire, tout comme le Pic du Gers. Donc un massif qui a calcaire donc, où l'eau s'infiltre et creuse de nombreuses cavités, de nombreux gouffres. C'est un massif que l'on appelle karstique, avec une végétation assez rase qui fait qu'il a un aspect un peu parfois lunaire sur certains aspects, ce Béout. Il culmine un peu plus bas que le Pic du Gers, à 791 mètres d'altitude. Et il a été colonisé, enfin habité, très tôt dans l'histoire, puisque les grottes du Béout ont servi d'habitat dès l'époque magdalénienne. Ça représente à peu près, c'était il y a environ entre 17 et 14 000 ans. De nombreux outils et vestiges y ont été retrouvés, et comme dans de nombreuses grottes de ce massif du Béout. On peut citer par exemple les grottes les plus connues, la grotte de Massabielle qui en fait partie, mais aussi les grottes des Espélugues, du Loup, qui étaient autrefois ouvertes à la visite notamment.
Dans ce Béout, vous me disiez, Rantaine, qu'on trouve une carrière de sarcophage.
Tout à fait. Alors, pour faire le parallèle avec les grottes, elles étaient parfois utilisées aussi pour y placer des sépultures. Mais la pierre du Béout en elle-même était aussi utilisée pour faire des sarcophages, effectivement, à l'époque mérovingienne. Donc, c'était une carrière d'extraction. Vu que la roche calcaire était naturellement fendue, elle était plus facile à travailler et aussi, petite astuce, pour un peu moins cher que le marbre, mais elle y ressemblait un petit peu, donc c'était quand même une roche assez pratique. Donc de gros blocs en forme de trapèze étaient d'abord extraits de la carrière au Béout, ces gros blocs étaient redescendus plus bas dans la vallée pour être ensuite évidés, creusés et travaillés. Et il y avait également au Béout toute une partie de la carrière qui était vraiment dédiée uniquement au couvercle des sarcophages, donc pour pouvoir les former et servir de sépulture. Donc l'époque mérovingienne, il faut savoir le situer, c'était à peu près entre le 7e et le 9e siècle. Et beaucoup de sarcophages sont visibles notamment dans l'enceinte du château fort, musée pyrénéen. Ils ont été conservés parce que beaucoup ont été retrouvés dans le cimetière de l'ancienne église Saint-Pierre de Lourdes.
Quand on parle Béout, on pense immédiatement au téléphérique, ce téléphérique qui a été construit dans les années 30.
Exactement, avec le développement un petit peu de l'arrivée des visiteurs, des pèlerins à Lourdes, beaucoup d'activités, de nouveautés étaient proposées et le Béout s'est équipé d'un téléphérique à partir des années 1930. Il a fermé depuis malheureusement en 1990 et ses câbles ont été déposés en 2000. Pendant très longtemps, on a pu voir une cabine qui était conservée devant le bâtiment de départ, donc à Lourdes. Et maintenant, on peut encore voir les vestiges du bâtiment d'arrivée au sommet du Béout.
Et au sommet du Béout, on peut y aller par un chemin pédestre.
Exactement, tout à fait. C'est un chemin de randonnée. C'est à peu près une heure et demie aussi de randonnée. Et c'est une randonnée très agréable. Quand on arrive vers le sommet, on a une très belle allée d'arbres majestueux qui sont aussi des vestiges de l'aménagement du téléphérique, justement. Et après, on a un très beau point de vue sur Lourdes et sur les vallées aussi. C'est assez magnifique. Et sur le Pic du Gers, qu'on voit sous un nouvel aspect aussi.
Il se trouve à 791 mètres d'altitude. C'est donc le Béout qu'on vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Un grand merci, Julie. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous.
Merci beaucoup, à bientôt. Can easily hide.
It may be a quite a simple wonder, but that's how it goes. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I wrote down in words. Words. How wonderful life is when you're in the world.
Bigorre 88.9
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Les troupes de l'OTAN envoyées au Groenland inquiètent la Russie. La diplomatie russe regrette une militarisation de l'Arctique, se positionne comme un